Chapitre 1er, versets 1 à 16, l'Amalékite. Deux fêtes signalent le règne de David à son aurore, le jugement d'Israël et de son prince sur les montagnes de Gilboa, la victoire remportée sur Amalek par celui qui sera roi demain. Le règne de Christ aura les mêmes caractères. Il ne peut être établi que par le jugement de l'Antichrist et des Juifs apostats, et par une victoire réduisant à l'impuissance le grand ennemi de Dieu, de son oint et des hommes. C'est en effet pour l'introduction du règne millénaire de Christ que Satan sera lié. Apocalypse chapitre 19 verset 19 à chapitre 20 verset 3. À peine la victoire sur Amalek est-elle remportée, qu'un messager vient du camp de Saül, ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête, avec les marques de la sympathie, du deuil et de la douleur, et avec les hommages dus à la royauté présumée. Arrivé auprès de David, il tombe contre terre et se prosterne. Tout autre que l'homme de Dieu eût été touché de ces marques de déférence. Mais la simple communion avec le Seigneur, jointe à la prudence du serpent, quand il s'agit de relations avec le monde, lui fait éviter ce piège. Nous-mêmes, en pareille occasion, nous aurons peut-être aussi quelque peine à démêler les intentions de l'ennemi, mais évitons toute décision précipitée. C'est ce que fait David. D'où viens-tu ? Je me suis échappé du camp d'Israël. Que s'est-il passé ? Raconte-le-moi, je te prie. Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? Ce n'est qu'à la troisième question que le menteur se révèle. David, l'homme spirituel, peut déjà soupçonner l'invraisemblance du récit. « Je passais par aventure sur la montagne de Gilboa. » Comment ? Par aventure au fort de la bataille ? Et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les gens de cheval le serraient de près. Ici la parole elle-même convainc cet homme de mensonge. Saül s'appuyait sur son épée, et ce n'étaient pas les cavaliers mais les archers qui le menaçaient. Premier livre de Samuel, chapitre 31, versets 3 et 4. Tout le reste du récit est la fausseté même. Saül ne pouvait prier l'Amalékite de l'achever, car celui qui portait les armes du roi ne se tua que lorsqu'il eut constaté sa mort. Au verset 5. Alors je me suis tenu sur lui, et je l'ai mis à mort. Au verset 10 de notre chapitre. Cet esprit de mensonge émane du grand ennemi qui ne pouvait comprendre le cœur du fils d'Isaïe. Comment aurait-il supposé, lui le méchant, que David était plein de grâce, d'amour pour ses ennemis, que leur défaite remplissait son cœur d'une affliction dépourvue de feinte? Mais il voulait avant tout amener David à recevoir de sa main la couronne de Saül, signe d'investissement du royaume. Sa ruse est déjouée. Plus tard, quand, transportant le Messie, fils de David, sur une fort haute montagne, il lui offrira tous les royaumes du monde, à la condition de lui rendre hommage, il essuiera une nouvelle et suprême défaite. Le premier sentiment de David, apprenant la ruine de la royauté et d'Israël, est le deuil. Que son attitude est touchante. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Et ils menèrent deuil, et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir sur Saül et sur Jonathan, son fils, et sur le peuple de l'Éternel, et sur la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Versets 11 et 12. L'homme de Dieu a tout oublié. Haine, embûche, persécution, danger continuel menaçant sa propre vie. Il ne se souvient que d'une chose, c'est que l'Éternel avait confié son témoignage à Saül et l'avait oint, et qu'il avait conduit jadis Israël à la victoire. Il mène deuil aussi sur Jonathan, et quelque coupable que fût le peuple de Dieu, il ne s'en sépare pas, comme s'il n'en faisait point partie, et pleure sur ses calamités. Sérieuse leçon pour nous. Le jugement est déjà prononcé, près de tomber sur cette chrétienté qui hait et méprise et souvent persécute les vrais témoins de Christ. Avons-nous envers elle et ses conducteurs les vrais sentiments de David? Menons-nous deuil au lieu de nous réjouir, déchirant nos vêtements au lieu de la condamner? La pensée que Satan trouve son compte à l'anéantissement de ce qui porte le nom de Christ ou fait profession de lui appartenir, remplit-elle nos cœurs d'affliction? Il devrait toujours en être ainsi. Ces larmes sur la ruine, cette grâce, cette pitié pour ceux qui sont égarés, parlent plus au cœur des brebis du Seigneur mêlées à cet état de choses que les plus justes critiques et leur ouvrent les yeux sur la nécessité de chercher leur refuge auprès du berger d'Israël quand déjà l'épée est levée pour détruire. Le porteur de nouvelles assiste silencieux à ce spectacle d'affliction, sans en comprendre le sens et sans se douter du sort suspendu sur sa tête. C'est seulement alors que David lui adresse sa dernière question. « D'où es-tu ?» Lorsque Satan, qui sait se déguiser en ange de lumière, cherche à nous tenter, obligeons-le à nous répondre sur ses origines, à nous donner son vrai nom. Si nous sommes avec Dieu, il se trahira toujours à la fin. Déjà le nom de son peuple avait échappé à ce menteur, quand il rapportait l'entretien supposé avec Saül, lui qui, probablement, n'était venu à Gilboa que pour dépouiller les morts. Maintenant il ne pourrait se contredire. « Je suis fils d'un homme étranger, d'un Amalékite. » Verset 13. « Comment n'as-tu pas craint, dit David, d'étendre ta main pour tuer loin de l'Éternel ? Ta bouche a témoigné contre toi. » Versets 14 à 16. Non, il ne peut y avoir rien de commun entre David et Amalek, et jamais David ne recevra la couronne de sa main. Si nos cœurs peuvent être pleins de miséricorde quand il s'agit des nécessités, des tribulations du peuple de Dieu infidèle et de ceux qui, rejetés comme Saül, ont néanmoins porté son témoignage, ils doivent être sans merci pour les instruments envoyés par Satan en vue de nous tenter. Ils doivent, sans aucune hésitation, appeler le mal mal et l'ennemi un ennemi. Versets 17 à 27. Le chant de l'arc. David prononça cette complainte sur Saül et sur Jonathan. Il y exprime sa douleur sur le désastre des chefs d'Israël et de leur armée, mais ce chant de l'arc doit être appris par les fils de Juda. Verset 18. Il est un enseignement pour eux. Témoins du désastre d'Israël, ils devaient savoir comment l'éviter eux-mêmes à l'avenir. Saül avait été vaincu par les archers. 1 Samuel 31, verset 3. Quand lui-même était privé de cette arme. Nous apprenons en effet par 1 Chronique 12, versets 1 à 7, qu'avant la défaite de Saül, le corps des archers, appartenant à la tribu de Benjamin, et en grande partie à la famille du fils de Kis, s'était rallié à David et l'avait rejoint à Tsiklag. De là, cette très grande peur de Saül devant les archers. Ce chant de l'arc a un refrain poignant. « Comment les hommes forts sont-ils tombés ?» Verset 19. « Comment les hommes forts sont-ils tombés au milieu de la bataille ?» Verset 25. « Comment sont tombés les hommes forts et sont péris les instruments de guerre ?» Verset 27. « Que leur avait-il donc manqué ?» L'arc par lequel aussi Saül avait été vaincu. Partout dans l'Écriture, l'arc est l'emblème de la force pour vaincre l'ennemi. Avec l'épée, on l'attaque corps à corps. Avec l'arc, on le combat à distance, en s'opposant à son approche. L'archer voit venir l'ennemi de loin, se rend compte de ses mouvements et de ses desseins, et le couche à terre avant qu'il ait attaqué. L'arc est une arme plus intelligente que l'épée, mais elle est, avant tout, le symbole de la force, car il faut des mains et des bras puissants pour le bander et s'en servir. Les hommes forts d'Israël, Saül en tête, avaient rencontré l'arc d'un ennemi qui était plus fort qu'eux. L'erreur qui les avait conduits à la ruine était d'avoir estimé leur force suffisante. Mais la force ne va pas sans la dépendance, car elle n'est pas en nous-mêmes, mais en celui qui la possède, infaillible pour nous. Jésus-Christ, homme, en est l'exemple. Il n'a voulu chercher sa force qu'en Dieu, et n'aurait pas été l'homme parfait sans cela. Percé par les archers, sa force ne l'a pas abandonné. Genèse 49, versets 23 et 24. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui, et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. Lorsqu'en apparence sa faiblesse succombait sous la puissance de l'ennemi, son arc était demeuré ferme, sa force en son entier. Elle n'existait que dans la dépendance. Les bras de ses mains étaient souples par les mains du puissant de Jacob. Dans sa vie, n'avait-il pas déjà manifesté la puissance de Dieu par une dépendance complète de lui? Tous ses actes en faisaient foi. C'est ainsi qu'au tombeau de Lazare, montrant sa force par la résurrection d'un mort, il ajoute « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » Jean 11, verset 41. Dans sa mort, quoique crucifié en faiblesse, il fut néanmoins la puissance de Dieu. Devant la croix, toute la force de l'homme et de Satan furent réduites à néant. Par la mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. C'est là surtout que son arc est demeuré ferme, que les bras de ses mains furent souples par les mains du puissant de Jacob. Sa résurrection est la démonstration publique de cette puissance de Dieu dans laquelle il se confiait. Dieu l'a déclaré fils de Dieu en puissance en le ressuscitant d'entre les morts. Il avait le pouvoir de reprendre sa vie, comme de la laisser, mais, même pour sa résurrection, son âme dépendante s'attendait à la puissance de Dieu. « Tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Psaume 16, verset 10. « Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. » Psaume 22, verset 21. « Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc. » Psaume 40, verset 2. Il a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Romains 6, verset 4. L'excellente grandeur de la puissance de Dieu a été opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Éphésiens 1, verset 19 et 20. Ce n'est pas tout. Son arc demeurera ferme, sa force en son entier, à toujours. Quand le Fils de l'homme viendra pour juger les peuples, l'arc des reins qui atteindra les pécheurs sera dans sa main. Là encore, ce sera son Dieu qui le ceindra de force, qui enseignera ses mains à combattre. Psaume 18, versets 32 et 34. Le Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voix parfaite, qui enseigne mes mains à combattre et mes bras bandent un arc d'airain. C'est dans cette dépendance qu'il transpercera ses ennemis, sans qu'ils puissent se relever. Verset 38. Ses flèches seront aiguës et atteindront le cœur des ennemis du roi. Psaume 45, verset 5. Oui, son arc demeure ferme et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob, jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir à toujours sur le trône de sa puissance. L'homme peut avoir un arc, mais, entre ses mains, il fait défaut au moment de s'en servir. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Psaume 78, verset 9. Et quant aux ennemis du Seigneur, l'arc des puissants est brisé. 1 Samuel 2, verset 4. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Psaume 46, verset 9. Ainsi dit l'Éternel des armées, voici je briserai l'arc des lames. Jérémie 49, verset 35. Je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Osée 1, verset 5. J'ôterai du pays en les brisant l'arc et l'épée et la guerre. Osée 2, verset 18. Quant à nous, chrétiens, notre arc peut rester en son entier à condition que nous mettions notre confiance en Dieu qui nous communique sa force. Va avec cette force que tu as, dit l'Éternel à Gédéon. Juge 6, verset 14. Et l'apôtre lui-même faisait l'expérience que, quand il était faible, alors il était fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Rien n'est plus faible qu'un chrétien qui a abandonné Christ comme sa force. Sachons donc nous servir de notre arc, et, semblable à Christ, les bras de nos mains seront souples par les mains du puissant de Jacob. Apprenons le chant de l'arc en nous exerçant à le bander, à y ajuster la flèche pour atteindre le but. Plus nous nous en servirons, plus nous deviendrons forts contre l'ennemi. Les archers de Benjamin qui s'étaient réfugiés auprès du fils d'Isaïe, fidèles de la 11e heure, peu avant la défaite d'Israël, montraient par là qu'ils ne se confiaient pas en leur arc, avec Saül pour maître, mais dans la force de David méprisé. Faisons comme eux, entourons le roi rejeté. Ne gémissons pas sur notre faiblesse, comme si elle était sans ressources. Ce ne serait ni la foi, ni la confiance en Christ. Comptons, avec une très humble dépendance, sur sa force qui affermira nos mains afin de combattre pour lui jusqu'au jour où, la lutte terminée, nous entrerons dans son repos éternel. La complainte de David est l'expression touchante des affections de cet homme de Dieu. Un cœur rempli d'amour n'a pas de place pour le ressentiment et les griefs. S'il avait autrefois gémi sous les accusations injustes de la haine, il a maintenant tout oublié. Pas un mot de reproche contre celui dont les os reposaient sous le tamarisque de Jabès. Mais oublier n'est pas assez pour ce cœur admirable. Il aime à se souvenir. Il se rappelle que Saül a été loin de l'Éternel, le porteur de son témoignage, qu'il a conduit son peuple à la victoire. Il reconnaît les dons naturels qui le rendaient aimable pendant sa vie et attiraient sur lui l'amour d'Israël. Il le voit revêtant magnifiquement les filles de son peuple. Son chant exprime le respect et la douleur au sujet de celui qui l'avait toujours haï et persécuté. S'agit-il d'Israël? Quand un jour de faiblesse il avait pensé combattre en se joignant aux Philistins, David s'identifie maintenant avec lui et pleure avec ses larmes. La joie peut être la part des filles des incirconcis. David ne la partagera jamais. Que les montagnes de Gilboa, témoins de la défaite du peuple de Dieu, soient maudites. Son angoisse au sujet de Jonathan est sans borne. Ah ! Comme le cœur tendre du fils d'Isaïe estimait l'affection de son ami. Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu étais pour moi plein de charme. Ton amour pour moi était merveilleux, plus grand que l'amour des femmes. Verset 26. Affection entièrement désintéressée, ce que serait difficilement celle d'un autre sexe. En effet, Jonathan s'était dépouillé de ses dignités et de sa gloire et de l'arc de sa force pour en parer David au jour de sa victoire sur Goliath, puis, avec toute la chaleur de ses convictions, il avait plaidé la cause de son ami. Enfin, son admiration pour le fils d'Isaïe n'avait pas diminué dans l'opprobre et l'exil où il l'avait visité, sans avoir, il est vrai, le courage de l'y suivre. Sur ce dernier point, David ne dit pas un mot. Il couvre la mémoire de son ami d'une ineffable tendresse. Il ne parle pas de son amour à lui, mais il le prouve en exaltant l'amour de Jonathan. Oh, comme toutes ces paroles ont la saveur et le parfum du cœur de Christ. Seulement, David avait dû être formé par la discipline à de pareilles effusions. Le cœur de Christ n'en avait nul besoin. Sa vie tout entière n'est qu'amour et grâce. « Je vous ai appelé ami, » dit-il à ceux qui étaient sur le point soit de le renier, soit de fuir en le laissant seul. « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations, » dit-il en Luc 22, verset 28, à ceux qui, peu de temps après, ne pouvaient pas même veiller une heure avec lui. Prenons exemple sur ce modèle parfait.